Notre invité aujourd'hui, Gilles William Gondadel, il est avocat franco-israélien, chroniqueur sur CNews dans l'émission L'heure des pros 2 avec Pascal Pro et le dimanche dans le face-à-face avec Julien Drey, animé par l'excellent Elliot Deval. Et vous avez aussi, et vous tenez une chronique dans Le Figaro et dans de nombreux médias. Bonjour Gilles William Gondadel.
Bonjour Monsieur Chikoun.
Franco-israélien, vous y tenez?
Oui, bah oui, je tiens autant à la France qu'à Israël, donc je tiens à être franco-israélien, absolument.
D'accord. Alors, votre dernier ouvrage avant celui-là, c'était Le Bréviaire de la haine. Ça date d'il y a plus de 23 ans, et je peux vous dire, pour l'avoir lu de ce livre, qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qu'il y a 23 ans et aujourd'hui, vous confirmez?
Je confirme, mais entre les deux ouvrages a été publié aussi ma réflexion sur la question blanche, qui a affiné ma réflexion sur le nouveau bréviaire de la haine, sur l'antisémitisme moderne. Et je crois qu'effectivement, dans mon journal de guerre, je montre la dimension du racisme anti-blanc qui touche aujourd'hui les Israéliens.
Mais il y a 20 ans, quand vous disiez islamo-gauchiste, vous prenez pour un illuminé, on vous a donné raison finalement.
Oui, je crains de ne pas avoir été démenti très cruellement.
Alors, vous le dites, c'est un journal de guerre, ce n'est ni un journal intime, ni un journal officiel. Pourquoi vous tenez tellement à ce qu'on dise c'est un journal de guerre et pas un journal intime?
Parce que c'est la vérité. Je raconte pas complètement ma vie. Donc j'essaye de préserver quand même une certaine intimité. Mmh. Et en même temps, ça n'est pas uniquement un journal politique. J'y mets également du mien. J'y mets de l'affect. Donc entre la raison et l'affect, compte tenu des événements guerriers, c'est un journal de guerre.
Alors, il faut juste signaler, parce que vous dites dans le livre que vous avez vos deux enfants en Israël, dont le garçon qui s'est marié il n'y a pas très longtemps, Mazal Tov.
Oui, merci ça, beaucoup.
Votre fils, je crois, a été à l'armée. Oui. Ça rajoute plus d'affect dans le livre?
Ah, il y avait sans doute cette dimension supplémentaire. Hein. J'avais peur pour tous nos soldats. En général et plus particulièrement pour le mien, il n'y a pas de doute, mais en même temps, il y avait aussi de la fierté.
7 octobre jusqu'au 7 décembre, vous avez fait 2 mois de journal de guerre. On dit que le 7 octobre, c'était un pogrom. Je me demande, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce qu'on n'a pas un peu choisi un mot qu'on trouvait plus facilement qu'un autre? C'est un véritable pogrom pour vous?
Écoutez, comme je l'explique dès les premiers mots pratiquement de mon ouvrage, moi qui n'étais pas un juif doloriste, moi qui n'étais pas un juif shoatique, j'ai eu un problème de vocabulaire au 8 octobre au matin pour ne pas être dans un registre effectivement du passé, et je persiste et signe en pensant que dans notre champ lexical judaïque, et même international d'ailleurs, le mot pogrom est celui qui convient le moins mal à ce qui nous est arrivé, parce que ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont violés, ceux qui nous ont éventrés, ceux qui nous ont décapités, ne l'ont pas fait parce que nous étions israéliens. Le Hamas ignore Israël et les Israéliens. Il ne connaît que les Yahouds, les Juifs. Donc non, je pense que nous étions réellement, d'autant plus dans le cadre d'un pogrom, que, et ça a été une des dimensions terribles des premiers jours, nous étions d'une certaine manière sans défense. Nous nous sommes trouvés pendant de trop longues heures pratiquement sans défense. Et donc, c'était effectivement un terrible retour au passé, une terrible régression, je pense, telle que nous l'avons vécu dans la sidération.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le 7 octobre, vous avez dit, pour l'instant, c'est le deuil, mais dans quelques jours, le monde occidental se tournera contre Israël. C'est le cas aujourd'hui. C'est tout le temps comme ça?
Ah non, mais je n'ai aucun doute, mais vraiment, je n'avais aucun doute que dès l'instant où nous rendrions les coups, bien entendu, nous passerions de l'état ghetto pogromisé à l'état nazifié. Je connais trop mes classiques de la triste modernité pour ne pas connaître cette règle infaillible. Mais je faisais allusion, vous vouliez bien faire allusion à mon nouveau bréviaire de la haine, et je faisais allusion à ma réflexion sur la question blanche. Il faut comprendre que l'antisémitisme d'aujourd'hui, ou en tous les cas l'anti-israélisme, est moins l'antisémitisme d'hier, classique, qui perdure, que la détestation pathologique du blanc, de l'occidental blanc, à la puissance 1000, parce qu'il s'agit d'un juif. C'est encore, le juif est aujourd'hui, je l'ai expliqué en long et en large, le juif est aujourd'hui vu comme un blanc au carré, à un moment où le blanc est détesté. Donc, il est déjà, si vous voulez, lorsqu'un Français veut défendre les frontières nationales, il est déjà diabolisé. Mais lorsque c'est un juif qui ose vouloir défendre avec la force ses frontières nationales, il est réellement nazifié, puisque, ça je l'explique aussi, nous vivons sous un empire inconscient où le juif en pyjama rayé est béatifié, sanctifié dans ce monde post-chrétien qui a vécu d'une certaine manière la Shoah comme une nouvelle crucifixion. Je dépeins le philosémite déçu le plus dangereux qui est Edwy Plenel, comme effectivement le parangon de cette nouvelle triste vertu qui adore le juif en pyjama rayé, mais qui l'a
dominé,
qui aborde l'israélien en uniforme kaki, tant que il était dans une position christique, le juif est en position christique sur cette nouvelle croix, où il ressemblait à s'y méprendre juif Jésus, qui ne rit pas, qui ne se défend pas, c'était merveilleux. Mais dès l'instant, d'une certaine manière, le juif en Galilée, l'israélien, eh bien, d'une certaine manière, a trahi cette vision christique du juif en pyjama rayé. Le juif en Galilée, c'est Judas, d'une certaine manière, qui trahit le juif idéal qui ne se défend pas. Ne vous y trompez pas, c'est dans le cadre de ce scénario inconscient, mais constant, que nous sommes nazifiés.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא עבדה האמונה עם ישראל, עם ישראל חי
Notre invité Gilles William Golnadel pour livre Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine aux éditions Fayard. Dans votre livre, Maître Golnadel, on parle aussi de la désinformation, comme vous le dites, et des médias de service national, TF1 et France 2, Le Monde, etc. Pourquoi là aussi une désinformation ?
Alors, non. D'abord, je parle de l'audiovisuel de service public.
Voilà.
Voilà. C'est-à-dire que j'argumente.
Oui, évidemment.
Des détails,
évidemment.
Je documente jour après jour la manière dont sur France Inter, sur France Info, on avait chaque jour, et d'ailleurs ça continue, hein, ça continue, chaque jour, que Dieu ou le diable fait, vous avez, c'est le Hamas, aujourd'hui encore, ce sont les déclarations du Hamas ou mais du Hezbollah.
Mais en même temps, c'est pas nouveau, c'est pas un fait oui, qui date du 17 octobre.
Oui, enfin là, il se trouve que nous sommes en guerre, monsieur Macron.
Oui,
donc,
alors.
Il y a une focalisation obsessionnelle sur ce qui se passe en Israël plutôt qu'au Soudan, d'accord ? Et donc, on parle infiniment plus chaque jour de cela. Il n'y a pas chaque jour, pratiquement, vous avez dans le bulletin d'information une déclaration du Hamas, un bilan victimaire du Hamas ou un bilan victimaire du Hezbollah. Et encore, ils sont bien gentils de le sourcer. J'ai, pas plus tard qu'hier, j'ai tweeté qu'à minuit, sur France Inter, vous aviez un bilan victimaire en sourçant le Hamas, et à minuit 5 sur France Info, vous aviez le même bilan victimaire, mais sans même donner la source qui émanait du Hamas. Ce qui là, on est dans une désinformation invraisemblable. Et quand ça n'est pas cela, et je l'explique vraiment jour après jour dans mon journal, quand ça n'est pas cela, eh bien, il donne le micro à un responsable de l'UNRWA, un responsable de Amnesty International, un responsable de Médecins Sans Frontières, qui tous ont en commun de faire partie des ONG qui ont des liens, je dis bien des liens, avec le Hamas.
Et vous le démontrez dans le livre.
Et je le montre, et tout cela est documenté. Bien, donc si vous voulez, alors il se trouve que ce matraquage, qui est un véritable matraquage, il faut reconnaître malgré tout qu'il a marché. Il faut reconnaître que aujourd'hui, 27 mars, l'État d'Israël a perdu la guerre médiatique qu'il ne pouvait pas gagner. Dès l'instant où elle était livrée, la guerre défensive justement lutter définitivement contre le Hamas ne pouvait pas être gagnée médiatiquement. C'est totalement impossible. Non seulement en raison du cadre intellectuel inconscient que je viens de vous livrer, mais également de manière plus prosaïque, parce que nous ne faisons pas le poids. Le nombre, c'est une grande chose que le nombre, comme je l'écris dans mon livre. Ils ont l'argent, ils ont la démographie, ils ont la rue arabe. Donc, de toute manière, c'est un combat...
inégal.
Totalement inégal, mais qui est la pire des choses eût été de ne pas entreprendre cette guerre pour conserver. Pour autant, d'ailleurs, je vous signale que même le 8, à supposer par une pure hypothèse intellectuelle absurde, que le 8 octobre, M. Netanyahou décide de ne rien faire. On reste comme on est. Je vous garantis que malgré tout, les conséquences, le drame du 7, nous n'aurions pas conservé la figure christique. Nous n'aurions pas concerné la figure soatique. De toute manière, le procès contre Israël, le procès contre le colonialisme aurait continué à être livré à feu plus doux, sans doute, mais jusqu'à ce qu'on dise que finalement, ce qui s'est passé était bien malheureux, mais que finalement, les sionistes l'avaient mérité.
Oui, alors,
nous faisons aucune illusion.
Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, sur votre cheval de bataille, l'islamo-gauchisme et le wokisme. Et après, je prends un mot sur les otages. D'abord, sur l'islamo-gauchisme, c'est vraiment devenu, on va dire, le cheval de Troie des gauchos et des islamistes.
Écoutez, il y a bien une alliance entre la France insoumise et les banlieues islamisées. Donc, écoutez, vous avez 43% de la population musulmane française qui tient pour résistant un mouvement qui décapite les bébés. Ça montre quand même la puissance non seulement de l'islamisme en France, dans les banlieues, et également l'influence pernicieuse qu'a exercé le gauchisme sur une partie de la population musulmane qui, il y a encore 40 ans, se moquait comme d'une guigne des Palestiniens. Alors, je ne dis pas, bien entendu, que la prose des amis de M. Mélenchon plus la propagande de Al Jazeera fait que nous en sommes dans une situation. Donc l'islamo-gauchisme existe, nous le rencontrons tous les jours. Ça n'est pas qu'une alliance de circonstances purement électoralistes. Ces gens-là sont sincères, et je vous le répète, ils ont pour les juifs israéliens un tout petit peu plus de détestation que pour le blanc français qui tente de vouloir résister à une immigration invasive, mais pas beaucoup plus, il faut comprendre. Et d'ailleurs, réciproquement, je peux vous dire que c'est ce que je disais dans une précédente interview, malgré le matraquage médiatique invraisemblable, beaucoup de Français d'origine chrétienne conservent aujourd'hui pour Israël en difficulté un grand soutien. Consolons-nous en y pensant. Voilà. Votre dernière question, c'était
sur les otages. Est-ce qu'il faut tout faire pour sauver les otages, parce qu'Israël doit même libérer des milliers de terroristes pour sauver ses otages?
Non. Malheureusement, je suis de ceux qui... Alors, c'était dans des circonstances totalement différentes, mais j'avais terriblement été ulcéré par le fait qu'on libère Gilad Shalit contre mille des pires terroristes qui soient. Donc, clairement, ces choses-là, malheureusement, ça n'est pas à n'importe quel prix. Cela étant, il faut tout faire ce qui est dans notre pouvoir de libérer ces otages dont personne ne parle plus hein, en France.
Hein. C'est vrai.
C'est incroyable, et je termine là-dessus, vous observerez que par une sorte de désinformation par omission, mensonge par omission, je montrais justement dans le cadre d'un tweet encore hier que Le Monde trouvait le moyen de faire un titre en disant, eh bien voilà, la résolution contre l'ONU, de l'ONU, elle est passée et les bombardements continuent. Et ils ne remarquaient pas non plus que les otages n'avaient pas été libérés, alors que dans la résolution de l'ONU, il y a également le fait de prévoir la libération immédiate et sans condition des otages. Mais ça, Le Monde ne s'étonnait pas qu'ils n'étaient pas libérés malgré la résolution de l'ONU. Mmh. Ça vous montre dans quel cadre invraisemblable, réellement schizophrénique, nous vivons. Voilà, cher ami.
Merci Gilles-William Golnadel. On rappelle votre journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, aux éditions Fayard. Merci à vous. Bonne journée.
Portez-vous bien.
Merci.
À bientôt. Au revoir.